Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Pèse sur Start. Mon nom est Caddy, je suis en compagnie de Christine Lemu.
Hello!
Et de Raphaël Lavoie.
Salut!
Comment ça va vous autres?
Ça se passe très bien. Et toi?
Ben oui, ça va bien.
Ça va bien, ça va bien. Grosse soirée des Oscars hier.
Ouais, oh, ça, ça a brassé. Au propre et au figuré.
Yep.
Oui, c'est ça. Ça a brassé pas mal. Mais Dune est sorti très gagnant. Il a gagné beaucoup de prix. Et c'est qui est le fun pour Denis Villeneuve?
Oui.
Ben oui, il a gagné 6. Il a gagné pas loin de tout ce qu'il pouvait gagner, outre meilleur film. Et je me demande pour de vrai s'il y avait autre chose que ça. En tout cas, il en a gagné pas mal.
Oui, une belle soirée pour le Québec au cinéma. Toi, tu l'as regardé en direct, Raph?
Je l'ai regardé en direct. Je ne suis pas sûr trop de ce qu'on a fait avec la présentation cette année. On a voulu y aller, je crois, d'une façon pas mal plus grand public, peut-être en délaissant un peu les cinéphiles. Donc, moi, je mets un petit bémol. Segment In Memoriam qui était un petit peu weird. Là. Ils ont essayé de le faire très uplifting avec de la musique gospel et tout. Mais le message était un peu... Peut-être un peu étrange au final. Bref, plein de petites touches où est-ce qu'on essaye d'aller chercher un plus grand public, puis je suis pas sûr que ça a très bien fonctionné. Il y avait une meilleure diversité que les autres années, ça je crois que c'était le meilleur point de cette soirée-là.
Mm-hmm.
Mais peut-être dans la forme, c'était pas l'idéal. Mais en tout cas, il y a eu des rebondissements, mais c'était toutes des affaires pas scriptées.
Des affaires pas scriptées.
Vos propres conclusions.
Oui, mais il y a des gens, en tout cas, ben, pour ceux qui ne savent pas, bon, à la maison, Will Smith qui a frappé de main ouverte Chris Rock et qui était en animation pour un prix. Bon, ça n'a pas eu l'air scripté, en tout cas. Puis visiblement, ce n'était pas scripté parce qu'il y avait des mauvais mots dans tout ça. Il y a encore des gens qui pensent que c'est scripté, par contre. Là, J'ai regardé un peu sur le web. Il y a encore des gens qui pensent que c'était scripté. Je suis pas d'accord. Je pense qu'un moment comme ça, c'est un peu... ça fait jaser beaucoup. Et puis, bon, ça polarise beaucoup. Donc, c'est rare que les Oscars font parler d'eux beaucoup le lendemain. Mais c'est une fois parce qu'on va en parler longtemps, je pense.
Mm-hmm.
Ouais, puis si jamais c'était scripté, écoute, ça a eu comme effet qu'on ne parle pas du tout du volet cinéma des Oscars, qui après tout est une cérémonie de remise de prix pour des films. Mm-hmm. Fait que si jamais c'était scripté, ils sont comme passés un peu à côté de la traque, disons-le comme ça.
Ouais.
Mais non, je pense pas. Pour de vrai, la production avait tellement de l'air déboussolée. En tout cas, le produit qu'on recevait sur nos écrans venait clairement d'une régie qui n'était pas au courant de ce qui allait se passer, là.
Mm-hmm.
Fait que, en tout cas, ben écoute, il y en a qui pensent encore que la Terre est plate. Hein. Fait que...
Effectivement. Bon, ce week-end, je voulais vous annoncer que je n'ai pas joué à Elden Ring. Il y avait les Oscars à regarder, mais non. Je n'ai pas encore joué à Elden Ring et je ne vais probablement jamais y jouer. Mais il y a un nouveau venu dans le monde d'Elden Ring et des Souls, c'est Raphaël. Raphaël, tu as commencé Elden Ring il y a quelques semaines, puis finalement, ton expérience n'est pas si négative que ça.
Ben non, c'est ça. Écoute, pour faire un petit préambule, moi, j'ai jamais aimé les Souls-like, que ce soit Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, name it. J'ai jamais embarqué dans cette vague-là. Et pourtant, à peu près tous mes amis sont d'incroyables fans de From Software. Ce qui fait que j'ai à peu près tout essayé ces jeux-là au final, où je les ai vus en action. Puis chaque fois, je me suis toujours dit « Non, c'est vraiment pas pour moi. » J'aime les RPG, mais pour moi, la difficulté qui est comme classique chez From Software, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. T'sais. Ben, en fait, je comprends l'aspect défi de la chose, mais c'est pas quelque chose qui me rejoint. T'sais. Je vais faire une petite confession. Moi, les jeux, souvent, je les joue à facile quand c'est possible. Mm-hmm. Ça permet de passer au travers des jeux plus rapidement. Ça permet de se concentrer sur l'aventure. Bon, t'explores les mondes. T'es capable de vivre le jeu sans les frustrations nécessairement. Je comprends que c'est un sacrilège pour certaines personnes là, qui ont passé 300 heures sur Super Mario. Là. Mais pour moi, relever des défis, ben, j'en relève des défis dans la vie, mais pas nécessairement dans un jeu vidéo. T'sais, ça n'a jamais tellement été mon truc. Pour moi, c'est un exutoire. Pour moi, c'est un endroit où est-ce que tu vas pour souffler un peu, décrocher. Écoute, changer les idées, puis prendre ça mollo, hein, comme on dit.
Oui.
Par contre, Elden Ring m'intriguait quand même. Depuis sa sortie en février, t'en as parlé dans une chronique un peu quasi. Mm-hmm. J'avais des impressions quand même similaires aux tiennes, des sentiments similaires, où est-ce que j'avais un peu une peur de passer à côté de quelque chose, le fameux FOMO, là, Fear of Missing Out. Là. Depuis la sortie, je regardais Elden Ring de loin en me disant « ça pourrait vraiment être mon genre de jeu ». Mais en même temps, ça reste un jeu de From Software. Fait que, tu sais, j'aime pas les Souls-like. Ça a l'air difficile. Ma gang d'amis, encore une fois, qui dans notre groupe Discord disait « ouais, Elden Ring, c'est malade ». C'est un jeu plus difficile que tout ce à quoi j'ai joué en ce moment. Les boss sont incroyables. C'est casse-tête par-dessus casse-tête, par-dessus prise de tête, par-dessus cauchemar. C'est malade. Tu sais, moi, je lis ça, je suis comme, ben, tu sais, je pense pas que From Software ait changé assez pour que je puisse me permettre, tu sais, d'essayer Elden Ring. Fait tu sais, depuis la sortie, je regardais ça de loin, mais j'avais pas flanché jusqu'à une bière d'après-midi. Hein. Tu sais, des fois, ça arrive que tu vas prendre une bière d'après-midi avec ta blonde, tu sais, puis des amis, puis ben, deux bières plus loin, tu reconsidères certaines idées, certaines envies, certaines certitudes dans ta vie là qui s'effritent un petit peu. Puis, ben, cet après-midi-là, on est allé acheter, ma blonde pis moi, Elden Ring. On s'est dit...
Une copie physique.
Écoute, on avait échangé des jeux un mois plus tôt en faisant du ménage dans une boutique locale à Québec. On avait un crédit. Écoute, on avait un verre dans le nez. On s'est dit, regarde, on va se rendre à pied jusqu'à la petite boutique de jeux vidéo. Puis, on va acheter Elden Ring. Fait que je ramène ça à la maison, puis tu dégrises, hein, puis tu te dis « qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait là? » ça pourrait être pire, là. J'aurais pu, je sais pas moi, acheter une moto ou whatever. Tu
sais. Une cafetière à 2000$.
Ouais, ben non, c'est ça exactement, une cafetière hors de prix. Mais en tout cas, pareil, tu ramènes ça chez vous, tu commandes à souper, tu mets le jeu sur la table, là, tu le regardes, là, tu le fixes, là, tu regardes le boîtier, il n'est pas déballé encore, tu te dis « moi-tu le déballer, moi-tu vraiment faire ça? » En tout cas, vous épargnez les détails, on a fini par le déballer. Je pitche ça dans PS5. Il y a le module de création de personnages que j'avais déjà exploré un peu avec Christine pour faire un article, vous irez lire ça, qui s'intitulait « On a recréé des vedettes québécoises dans Elden Ring ». Il y a Jean-Luc Mongrain là-dedans, c'est malade.
Ouais.
Bref, j'avais déjà un peu d'expérience. Fait que ben j'ai fait mon personnage habituel, Kevon, on le salue, là, comme mon avatar vidéoludique. Fait que là, je travaille là-dessus. J'ai choisi la classe prisonnier. Je trouvais ça intéressant parce que c'était comme un genre d'hybride entre un sorcier puis une espèce de combattant à l'épée avec de la dextérité. Puis tout. En tout cas, je trouvais ça pas pire. Je me disais, bon, regarde, c'est un peu de tout. Je connais pas tant je connais pas toutes les Souls-like. Je devrais me débrouiller avec ça, tu sais. Puis là, j'embarque dans le monde, puis là, je commence à jouer. Puis, tu sais, les premières heures, t'es comme, quand t'es pas fan d'Elden Ring, de Souls-like, t'es pas sûr si tu vas aimer Elden Ring ou pas, tu sais. Il y a un petit tutoriel, mais il y a quand même beaucoup de mécaniques. C'est une interface, en fait, que From Software utilise, à part quelques ajustements depuis, bon, une dizaine d'années et même plus, tu sais, depuis vraiment les débuts de cette série-là non officielle, on pourrait dire, de From Software. Mais pour quelqu'un qui a pas tant taponné avec ça, outre quelques séances de 10 minutes chez un ami, ben, tu sais, c'est... Faut que tu te fasses un peu à l'idée, faut que tu comprennes que quand tu meurs, tous tes points d'expérience slash argent, qui sont des runes dans Elden Ring, ben ils vont se ramasser par terre où c'est que t'es mort, puis il faut que tu ailles les chercher avant de remourir, sinon tu vas tout perdre. Tu sais, faut que tu apprennes certaines mécaniques. C'est pas un jeu qui te prend par la main, puis pour un débutant au début, ça peut être un peu déboussonnant, t'sais. Sauf que j'ai trouvé, après peut-être 5-6 heures, que c'était quasiment ce qu'il y avait de meilleur dans Elden Ring, le fait qu'on te prenait pas par la main, t'sais. Justement, c'est ça.
Avoue que ça fait longtemps que t'étais pas tombé sur un jeu genre que tu savais pas ce que tu faisais parce qu'on te l'a pas montré, là.
Non, c'est ça, surtout dans les jeux au monde ouvert, tu sais, depuis quelques années, ben écoute, quasiment depuis l'arrivée de ces fameux jeux au monde ouvert-là, il y a une quinzaine d'années, ben, tu sais, t'es habitué d'ouvrir ta carte, pis ça a l'air un peu d'un sapin de Noël, là, que t'as un paquet de points d'intérêt, que toutes tes listes de missions, que tout est là, tu sais, tout est détaillé, c'est sûr, ça a ses avantages, tu sais, mais ça te coupe peut-être un peu de l'immersion. Et puis moi, pour la petite histoire, je suis un fan fini de Breath of the Wild. J'ai jamais été tant un gars de Nintendo non plus, toujours été plus du bord de PlayStation plus jeune. Fait que c'était mon premier Legend of Zelda, mais je suis tombé là-dedans comme un fou. J'ai adoré ça et c'était ce sentiment de liberté qui transcendait Breath of the Wild d'un bout à l'autre, où est-ce que tu vois un point au loin, tu te rends là, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a sur sa montagne, tu sais, l'espèce de point lumineux, tu te dis qu'est-ce que c'est ça, puis tu vas trouver quelque chose là-bas, tu sais.
C'est ça, ouais.
Vraiment, le sentiment d'être un explorateur, d'être Link et de découvrir, tu sais. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé dans Elden Ring et que j'avais carrément pas retrouvé, je crois, depuis Breath of the Wild dans un jeu vidéo. J'ai fait le test il y a quoi, un mois et demi à peu près, de Forbidden West, de Horizon Forbidden West. J'ai adoré ce jeu-là, je lui ai donné une excellente note, mais c'était pas aussi spécial que Elden Ring. Il y a quelque chose d'unique qui fait que tu déposes la manette et tu y penses encore. Il y avait une critique, je crois, qui était de Verge, en fait, qui avait critiqué Elden Ring et qui avait dit « Elden Ring, ce n'est pas un jeu, c'est un mode de vie ». Et j'avais trouvé ça hilarant à l'époque. Mais maudit, je suis d'accord avec la personne qui a fait la critique d'Elden Ring pour The Verge. Le fait que ce soit un monde ouvert, tu peux y aller à ton rythme, tu peux explorer, évidemment, il y a un énorme sentiment de découverte, mais j'ai trouvé, du moins jusqu'à maintenant, là, j'ai peut-être une quinzaine d'heures dans le jeu, une vingtaine d'heures jusqu'à maintenant, mais ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que c'était un antidote idéal pour de vrai aux frustrations pour quand même une tranche de joueurs des Souls-like de From Software. C'est un monde ouvert. Donc, si toi, tu veux avoir un défi, si tu veux revivre tous les traumatismes que tu as vécu dans Dark Souls, dans Sekiro, dans Bloodborne et compagnie, tu peux, au niveau 12, aller essayer de battre le premier boss majeur du jeu. Tu peux te mettre dans des situations qui n'ont aucun maudit bon sens. Mais si c'est pas ce que tu veux faire, tu peux contourner, tu peux revenir dans le même village qui est un peu plus simple et encore à faire les mêmes ennemis, faire un peu du farming en quelque sorte, mm-hmm. d'expérience. Tu peux trouver des façons d'explorer le monde et de survivre quand même et de devenir meilleur et d'y aller à ton rythme sans être nécessairement pogné sur un boss qui te bloque le passage pendant 25 heures, tu sais, tant que tu n'es pas capable de le passer. Et c'est un monde qui est immense, tu sais, bon, on s'entend, là, c'est ça, c'est préliminaire un peu en affaire, mais... C'est un monde qui est rempli. Tu te promènes à cheval là-dedans, t'as des cavernes, t'as des donjons, t'as des petits mini-boss qui popent d'un peu partout. C'est varié au niveau des environnements, au niveau du loot, au niveau des armes. Je comprends rien. En tout cas, moi, personnellement, je comprends absolument rien du lore, là. Je comprends fuck all de l'histoire, rien du tout, là. Mais c'est comme facile à passer par-dessus. Puis, en tout cas, bref, moi, je suis tombé en amour avec Elden Ring. Je suis obligé de dire que je pensais pas que ça allait arriver. Puis, finalement, c'est le sentiment d'exploration, le sentiment de liberté, puis le sentiment un peu de, je sais pas comment le dire, de dangerosité un peu du monde.
Oui.
Dans le sens que, c'est difficile, mais le fait que ce soit un monde ouvert, tu peux arriver dans une zone puis dire je suis incapable, je suis vraiment pas rendu là, puis aller juste ailleurs, tu sais. Mm-hmm. Puis à force d'aller ailleurs et d'éviter un peu les plus gros boss, ben inévitablement, à force de jouer, tu deviens plus fort en gagnant de l'expérience. Puis écoute, même si tu restes un petit peu clunky sur tes mouvements, sur tes roulades, sur ton timing, ben, à un moment donné, à force de mettre des points dans la force ou dans l'intelligence pour tes magies, quoi que ce soit, ben, tu vas peut-être être poche dans ton moveset puis dans ta façon de te déplacer, d'éviter les attaques, sauf que tu vas donner un coup de baguette magique puis tu vas enlever genre quelque chose comme la moitié de la barre de vie du boss que tu étais incapable de battre comme 5 heures plus tôt. T'sais.
C'est exaltant comme sentiment, oui.
Fait qu'il y a un sentiment de progression, puis il y a vraiment un sentiment de monde un peu organique, que t'es comme un peu un aventurier qui arrive dans un monde hyper dangereux et que tu peux pas nécessairement aller partout tout de suite. Ça ajoute, parce que c'est pas un jeu qui est réaliste pour 2-7, mais ça ajoute un once de réalisme un peu, d'être obligé des fois de tempérer tes ardeurs dans certaines zones du jeu ou quoi que ce soit. Fait que bref, ce que je suis en train de faire, moi, c'est un peu un plaidoyer pour toutes celles et tous ceux qui détestent les jeux difficiles, qui détestent les Souls-like. Ben, si vous êtes dans la haine la plus totale, ça marchera peut-être pas. T'sais, ça prend quand même un petit once d'ouverture, disons-le comme ça.
Ouais.
Mais c'est vraiment, mais vraiment bien fait. C'est vraiment immersif et il y a vraiment moyen d'enfiler les heures dans ce jeu-là. En tout cas, j'ai été vraiment agréablement surpris, vraiment. Puis écoute, j'ai 15 heures dans le jeu. Je suis genre level, je sais pas, moins 35. Puis j'ai pas avancé ben, mais c'est le sentiment qu'il y a tellement de viande autour de là, c'est
il y en a ouais. beaucoup.
T'as juste pris une petite bouchée à date, ouais. Tu sais. Breath of the Wild, c'était ce sentiment-là. Et le sentiment de dire où est-ce que ça va s'arrêter, cet immense monde-là. Tu sais, c'est pas Far Cry 6 où est-ce que t'as déjà toute la map, tu sais c'est quelle grandeur. Une fois que t'as, pour une région, les six types d'activités, t'es as toutes faites, ben, tu le sais que ça va être la même chose dans les autres régions. Ça va juste être plus difficile, va avoir plus d'ennemis, quoi que ce soit.
Mm-hmm.
Tandis que là, t'arrives à une place, t'entends comme une voix, tu comprends comme pas, puis là, t'as tes écouteurs, fait que là, t'es comme capable de positionner un peu d'où la voix provient, puis ça provient comme d'un buisson, puis là, tu donnes un coup d'épée sur le buisson, puis il y a comme une espèce d'homme singe accroupi, puis qui te dit de quoi qu'il n'y a pas rapport. Tu sais, tout est unique. En tout cas, je pourrais redire la même chose pendant des heures, là, puis ce serait quelque chose de vraiment difficile pour le montage du côté de Casey, là, un vrai supplice, mais bref, c'est vraiment bon. Merci d'être venu à mon TED Talk, là. Je vais le rendre une question si vous en avez.
Mais il y a des médias spécialisés qui disaient que, dans le fond, la sortie d'Elden Ring avait été tellement forte, tellement populaire que ça l'avait un peu éclipsé Horizon Forbidden West, que c'était un peu dommage parce que c'était un jeu qui méritait tout autant d'attention, puis tu sais que c'était un triple A aussi, tu sais, les gros détails puis tout. Puis c'est vrai que le buzz en ce moment, c'est Elden Ring qui l'a. Puis tu sais, même avec les sorties populaires récentes, il y a Kirby qui a fait jaser un peu la semaine dernière. Ça a fait couler d'encre quand même un peu. Mm-hmm. Mais on parle encore aujourd'hui et toujours d'Elden Ring à cause que c'est ça qui accroche les gens ces temps-ci. C'est fou quand je me connecte le soir là, à ma PS5 pour regarder mon petit Netflix. Ben, tu sais, moi, je vais voir des fois qui est online et qui fait quoi. Je suis curieuse. Puis c'est Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Tout le monde, tout le temps. Je pense que c'est un univers qui a su vraiment absorber les gens. Ils sont restés et ils restent longtemps parce que ils savent qu'ils ont juste vu la surface encore. Ils ont juste vu le début. C'est un peu l'impression que j'avais. Tu sais, c'est peut-être moins comparable en 2022, mais Skyrim dans le temps. Quand tu ouvrais Skyrim la première fois, t'avais aucune idée vraiment là, ce qui allait être devant toi parce que ça avait de l'air tellement immense, puis c'était une map qui était tellement immense aussi, puis qu'il pouvait avoir quelque chose à n'importe quel coin, un donjon, une grotte, des trucs comme ça, des ennemis des fois qui se promènent, qui sont gigantesques, puis t'es pas assez fort encore pour te battre avec eux, tu sais. Fait que je pense que ça a l'air à se comparer un peu à ce feeling-là, puis le feeling de Breath of the Wild, tu sais. J'ai vu aussi d'autres médias dire, Elden Ring, c'est Breath of the Wild Souls. Oh, Christine, ça va? Christine, à tous un peu.
Désolée.
C'est le retour des allergies. Tout le monde, c'est le printemps. Donc, c'est ça, il y a eu des médias qui disaient, c'est Breath of the Wild Souls, mais c'est beaucoup plus que ça aussi. C'est vraiment son propre monde à soi, donc c'est quasiment convaincant pour moi, mais je suis pas encore rendu à un point où est-ce qu'on peut me convaincre d'embarquer dans Elden Ring. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je serais trop stressé. Ça serait trop stressant pour moi.
C'est sûr qu'il y a vraiment un aspect stress qui reste là, où est-ce que t'es jamais vraiment en sécurité, d'être dans des situations très, très, très spécifiques où est-ce que tu sais que, bon, tu te feras pas attaquer, là. Mais c'est ça. C'est un jeu, en même temps, je trouve, qui est comme conséquent avec lui-même, dans le sens que t'es pitché dans un espèce de monde hyper cruel, hyper dangereux, hyper lourd. Puis c'est ça que le jeu te donne, tu sais. Et ce qui fait que tu vas faire des sauts, tu vas toujours être un peu sur tes gardes. C'est un peu le sentiment que transmet le jeu, je trouve. Et ça ajoute une coche, veux pas, à l'immersion au final. Mais c'est sûr, c'est pas Breath of the Wild qui pouvait être par bout aussi très stressant, là, on va se le dire, mais qui était aussi un jeu lumineux, feel good.
Oui. Ben, couleur douce.
Ben, c'est ça, qui transpirait quand même un peu Nintendo après tout. Mais, tu sais, au final, c'est ça, ça démocratise un peu le genre. Puis, écoute, moi, j'étais la dernière personne qui pensait jouer à ça, pour de vrai, là, dernière personne. Mais en même temps, c'est sûr qu'il faut que tu ailles quelque chose un peu pour les RPG d'action, pour les jeux un peu survival horror. Il faut que tu sois un peu dans ce mood-là. Est-ce que tu es dans ce mood-là? J'aurais pensé peut-être Oui, un peu plus, tu sais. T'as aimé les derniers Resident Evil, t'as passé, je sais pas combien d'heures à Breath of the Wild et compagnie. Fait que, tu sais, peut-être qu'à quelque part, j'essaie de te convaincre un peu, là. Tu sais, peut-être que les deux univers, les deux segments peuvent se joindre dans Elden Ring. Mais.
Ouais, c'est peut-être juste parce que c'est
Mais.
pas mon mood en ce moment, mais
Ouais.
peut-être que au retour peut-être le prochain hiver.
Peut-être, ouais.
Là, je suis plus mode printemps, j'ai goût de jouer à Kirby, la pandémie est lourde, j'ai le goût de jouer à quelque chose de léger, puis de bubblegum un peu,
C'est
puis
normal.
Elden Ring, ça a l'air d'être tout sauf ça.
Non,
Ouais, non.
c'est sûr, effectivement. Ouais.
Ben, excellent, merci beaucoup, Raph.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Christine, dans le fond, elle embarque avec sa niche dans quelques instants avec quelques conseils pour des gens, pas nécessairement comme moi, mais peut-être éventuellement pour moi, les débutants, dans le fond, qui sont sur le bord de lâcher Elden Ring, ben, elle a des conseils pour vous avant de lâcher, avant d'abandonner. Christine, qu'est-ce qu'on devrait faire avant d'abandonner dans Elden Ring? Parce que là, moi, je vois du monde abandonner pas mal sur Twitter, je vois du monde qui capote. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil?
Écoute, je m'étais dit justement pour ces gens-là, je me suis dit, bon, écoutez, vous avez payé un jeu 80 $, 90 $ pour certains. Ça serait dommage là, de que ce jeu-là prenne la route du magasin pour un échange, avoir un crédit ou quoi que ce soit, ou que vous le pitchiez aux poubelles. J'en connais qui ont fait ça par colère ou par exaspération. Puis tu sais, je comprends là, je comprends que ça peut être frustrant. Je le sais, j'ai été là-dedans, j'ai été aussi dans ce même bateau-là avec les Dark Souls notamment et Demon Souls. Mais Elden Ring, comme Raph disait, amène vraiment quelque chose de tout nouveau, une possibilité de d'échappatoire à ce que Dark Souls est, parce que bon, on le sait, Dark Souls, c'est des jeux qui sont très linéaires, très couloirs, donc on peut pas aller ni à droite ni à gauche, là. Si on veut revenir sur nos pas, ben tu sais, on revient sur nos pas, puis on peut pas changer d'air parce qu'on a déjà fait qu'est-ce qu'on a vu. Donc je me suis dit, vous savez quoi, essayez de donner une deuxième chance à Elden Ring. Puis pour eux, j'ai donc bâti une petite liste de 11 trucs à essayer avant d'abandonner le jeu et de faire une annonce sur Marketplace ou Kijiji, parce que on veut pas que là, on veut pas que vous vendiez votre copie, comme Raph vient de nous le dire. C'est un jeu magnifique. Il a été convaincu. Puis je pense que vous aussi pouvez le faire là, avec un petit peu de travail là, on peut réussir. C'est ce que mon papa me disait tout le temps. Avec un peu de travail, on peut tous réussir. Donc, parmi les 11 trucs et conseils que je peux vous donner pour rendre votre expérience de jeu positive, la première et probablement le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est que la roulade, qui est presque un mime dans les jeux de Soulsborne, la roulade est vraiment votre meilleur ami. Donc, la plupart des vétérans du genre vont vous le dire, s'échapper et esquiver les coups sont vraiment les meilleures stratégies dans un jeu, dans les jeux Soulsborne. Donc, même si tu es un ennemi facile, donc je mets des gros guillemets sur facile, ok, parce qu'il y a des ennemis plus difficiles. Oui, on le sait, ça s'appelle des boss, mais il y a des ennemis plus faciles qui peuvent quand même donner du fil à retordre. Ben, prenez votre temps là, dans les combats. C'est pas grave, vous êtes pas contre le temps. Il y a rien qui presse. Vous avez pas à être à 10 heures chez l'ennemi pour y péter à gueule. Non, tu sais, Fait que, au départ, tu sais, c'est pas un jeu qui demande d'avoir un esprit vif. C'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Mais vraiment, la première stratégie est celle qu'il faut savoir faire et que ça devienne même un automatisme. C'est l'esquive, donc la fameuse roulade ou sauter vers l'arrière. Essayez vraiment de le faire le plus possible dans les combats. Vous allez voir, les combats vont littéralement changer. Puis, ben, vous allez devenir un expert Sonic The Hedgehog Elden Ring là-dedans. Je vous le promets. Donc, ça, c'est le premier conseil que j'ai. Deuxième conseil, donc, quand vous partez à un nouveau bonhomme, on vous donne de l'équipement. Au départ, un équipement de base que vous avez pas trop comme de choix à l'utiliser. Mais okay. Je vous conseille de voir ça un peu comme c'est des suggestions, mais pas l'obligation là d'utiliser cet équipement là. Donc quand on va dans les équipements, souvent notre personnage est équipé beaucoup trop lourd. Il y a beaucoup trop d'équipements sur le dos. Donc pour faciliter l'esquive, qui est la stratégie numéro un, on conseille de réduire le poids de son personnage à poids moyen ou léger, si c'est le cas. Ça vous met en désavantage parce que vous avez moins de défense, mais...
moins d'armure, dans le fond.
Exactement. Sauf que ça fait que les combats vont être beaucoup plus faciles à gérer parce que vous pouvez vous échapper plus rapidement.
Fait que le but, ça serait avec ça de pas manger de coups, dans le fond.
C'est ça. L'esquive, encore une fois, l'esquive, c'est votre meilleur ami, genre. Donc, c'est éviter les coups le plus possible pour que, au final, l'ennemi contre qui vous vous battez, ben, il a fini son lot de coups, puis là, vous avez comme une ouverture, là, pour lui donner un coup, sa caboche, là. Donc, avec un poids moyen, un poids léger, ben, vous roulez plus vite autour de lui ou vers l'arrière, ce qui fait en sorte que vous échappez donc plus rapidement. Puis pour vrai,
vois-tu une grosse différence entre un poids moyen et un poids léger? Est-ce que ça vaut la peine, mettons, d'enlever ses culottes?
Je conseille de toujours descendre au moins un poids moyen. Léger, là, tu commences à être tout nu pas mal. Il y a des gens qui le font, les Naked Souls, là, donc dans le fond, qui se promènent vraiment en bobette et qui finissent le jeu au complet en bobette. Là. C'est faisable. Ces gens-là, sont ridiculement bons. Mais tu sais, il y a une différence de vitesse, oui, mais elle n'est pas très grande comparativement entre le poids lourd et le poids moyen. Fait que pour vrai, on conseille vraiment de descendre poids moyen. Il y a même il y a un ordre même. Les vétérans conseillent vraiment d'enlever l'armure dans un certain ordre. On commence avec les jambières, les gants, le casque, puis en dernier recours, l'armure, donc le torse. Fait que moi, pendant très longtemps, là, dans le début de mon jeu, personnage avait une super belle armure, un super beau casque, une épée géante, mais je me promenais nu-pied. C'est pas pratique.
Mais est-ce que l'arme pèse de quoi aussi, dans le oui. fond? Ou est-ce que tu peux avoir plus d'une arme ou tu gardes plutôt une épée?
Tu peux avoir une épée, tu peux avoir deux épées, tu peux t'équiper avec une épée à deux mains, tu peux t'équiper avec un bouclier, une épée, un bouclier et un bâton, n'importe quoi. C'est vraiment ces armes-là, tout l'équipement a un poids, mais c'est pour ça qu'on conseille toujours de commencer par le corps et ensuite changer les armes, mais on met toujours l'emphase sur les armes parce que c'est ça qui fait... le dommage, tu sais, c'est ça qui nous aide
ouais, c'est ça,
à penser.
C'est ça qui blesse l'autre.
C'est ça, exact. Troisième conseil, je vous conseille toujours de mettre cette énergie sur un ennemi à la fois. Même s'il y a un groupe, si vous rencontrez un méga groupe, il y a toujours un qui traîne la patte ou qui est plus à l'écart. Donc, dès que vous le voyez, essayez de concentrer sur celui qui est le plus à l'écart, d'essayer de l'attirer son attention sans attirer l'attention des autres, par exemple avec une flèche ou avec un sort. Puis ou même vous pouvez vous approcher de façon sournoise là, donc accroupi, puis lui sacrer un coup d'épée dans le dos là. Ça donne énormément de dommages, puis souvent ça le tue en un coup là. Donc puis si vous voyez que le combat dégénère, ben appelez votre cheval et partez. Éloignez-vous jusqu'à ce que l'aggro se réinitialise. Et ben à nouveau, c'est rinse and repeat. On répète la stratégie, puis on reprend ça au fur et à mesure qu'on avance.
Ça fait augmenter le niveau, ça.
Ça fait non seulement ça aide les combats, c'est moins rough sur le moral aussi, parce qu'on se sent des fois poche quand on se retrouve avec 6 ennemis sur le dos, puis on n'arrive pas, on sait pas où mettre la tête. Là. Puis en même temps, ça nous aide aussi à apprendre comment les ennemis agissent, parce qu'il y en a beaucoup qui se répètent dans le jeu. Donc, comment les ennemis agissent, parce que d'un ennemi à l'autre, les stratégies restent sensiblement les mêmes. Donc, ça nous aide vraiment à apprendre à étudier l'ennemi. Ça nous aide énormément à notre morale aussi, surtout quand en ce moment, peut-être, tu sais, on se trouve pas, puis on est comme, ben là, c'est-tu moi qui est pas bon ou qui peut-être que genre, j'ai pas compris quelque chose, ben. Faire ça une chose à la fois, on le dit tout le temps, même dans la vie en général, faites une chose à la fois et faites le bien. Ben, on fait la même chose aussi dans Elden Ring avec un ennemi à la fois.
C'est ça, ça se ramasse à être un autre, quand même, une autre base là, des Souls-like et de Elden Ring, je crois, mm-hmm. vraiment apprendre à connaître, comme tu dis, les ennemis, puis au-delà de ça, leur mouvement. On voit beaucoup ça avec les boss,
ouais.
mais avec l'arrivée dans Elden Ring de demi-boss, on pourrait dire, ouais. en quelque sorte. C'est vraiment primordial de voir un peu, est-ce qu'ils vont donner, bon, 3 coups d'épée, après ça, un quatrième, l'épée reste par terre.
C'est ton l'enlève moment, du sol, et c'est ainsi ça. De suite. Exactement.
C'est ça.
Comme une
ça,
chorégraphie.
C'est... Oui.
C'est ça.
Littéralement, oui. Et d'un boss à l'autre ou d'un ennemi à l'autre, ça se ressemble. C'est 3 ou 4 coups, avant qu'il recommence sa chaîne de mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on dit, faites une chose à la fois, un ennemi à la fois, vous allez les étudier, puis à un moment donné, vous vous rendrez pas compte que ça devient un automatisme. C'est vraiment, comme ils disent, la mémoire musculaire, là, ça devient presque ça. Là. Donc, faites ça une chose à la fois, on l'a toujours dit, une chose à la fois, ça fonctionne. ensuite, c'est Raph qui m'a donné cette idée-là, parce que moi, je suis du genre à être très persévérante sur un ennemi, puis littéralement, des fois, à boquer, là, donc à être tête dure. Mais Raph m'a dit, s'il y a un ennemi qui est trop fort, un boss qui est trop dur, ben, sortez de là, puis retournez explorer.
Parce ouais, que, c'est ça. C'est mon petit côté pissou un peu. Ça.
Mais c'est correct, tu sais. Puis c'est même pas, faut même pas être gêné avec ça là, parce que quand on rencontre un mur dans notre avancement, quand on rencontre que ce soit une vague, un mini boss ou un boss de zone, tu sais, souvent si c'est un mur, c'est parce que on est probablement pas assez fort ou pas assez bien équipé pour l'affronter. Donc la seule façon qui nous reste à améliorer ça, ben c'est de retourner explorer, c'est d'aller chercher des runes pour monter son niveau, d'aller chercher de nouveaux équipements peut-être, en faisant quelques recherches sur Internet, peut-être que vous avez entendu dire ou voulez voir s'il y a une meilleure épée pour vous ou une meilleure armure qui est peut-être plus facile à obtenir, ben c'est ça, c'est juste tout simplement retourner explorer, parce que on perd rien à explorer, en fait c'est même gagnant d'explorer les zones, parce que plus tard ben ça va servir, tu sais, ça va ouvrir des portes, ça va ouvrir des Lost Grays, donc les feux de camp là, qu'on débloque, ben ça les ouvre, puis ça ben ça permet de faire du voyage rapide, donc le fast travel d'un feu de camp à l'autre, fait il n'y a rien de perdu là, à faire de l'exploration. Puis ben aussi, ben ça aide à revoir sa stratégie, encore une fois, sans brimer son moral, hein, parce qu'il faut garder le moral quand on joue à Elden Ring.
C'est le fun de l'exploration, tu sais. C'est un monde ouvert, fait que le but, c'est quand même de l'ouvrir, ce monde-là, puis de se promener dedans le plus possible, puis de tout voir, puis des fois de frapper un mur à cause qu'on est devant quelque chose d'un peu trop avancé pour nous, mais tu sais, on l'apprend comme ça, là, en explorant.
C'est super fun. Puis en plus, on se le cachera pas, là, le monde est magnifique. C'est pas comme si c'était laid à regarder, c'est tellement beau que... On n'est pas perdant. On peut même s'amuser à faire des petits photoshoots là, avec nos personnages s'il faut, parce que pour vrai, c'est vraiment un super beau monde. From Software, ils ont mis beaucoup de temps puis beaucoup de designers sur le monde, puis ça paraît, là, ça paraît vraiment.
Puis souvent, j'ai trouvé qu'il y avait un certain principe d'alternance un peu, dans le sens que tu arrives à une place, c'est trop difficile, tu vas ailleurs, tu gagnes de l'expérience, tu trouves une autre place qui est trop difficile, mais après ça, tu peux aller à l'autre qui était jadis trop difficile puis qui est rendu correct, et ainsi de suite. Et on dirait qu'après quelques heures de jeu, tu as toujours comme un plan B, tu sais. Ouais. Un plan B qui était trop difficile il y a 2 heures, mais qui maintenant est rendu plus facile que ton nouvel objectif qui, lui, est rendu trop difficile, fait que... En tout cas, ça m'a vraiment sauvé beaucoup de frustration d'être capable de dire « OK, je suis pas capable », puis de juste partir.
T'sais. C'est ça, c'est vraiment différent, comme je te disais, avec les Souls. Où est-ce que Souls, on est vraiment obligé de suivre un chemin donné tout le temps. Si on rencontre le mur, ben c'est ce mur-là, puis on peut pas aller ailleurs pour... dire ben j'aimerais ça faire un plan B en attendant. Non, t'es obligé genre de te concentrer là-dessus, puis ça peut être frustrant. Puis c'est ce sentiment là qu'on se dit, oh, mon Dieu, est-ce que ça c'est vraiment pour moi ce jeu là parce que dans les Souls, j'avais pas de fun quand je rencontrais des murs. Puis c'est le fun que tu sais, quand les développeurs de From Software ont dit le jeu est plus facile, c'est dans ce sens là parce qu'il est pas plus facile là. C'est dans le sens que on nous donne tellement d'ouverture, de choix sur le plateau qu'on est comme, OK, ben, au lieu de faire le plan A, comme Graffy dit, on va faire le plan B. Fait. Puis, ben, ça aide à remonter le moral parce que c'est le fun là, de réussir quelque chose qui était difficile, qui était trop difficile au départ, qui est devenu finalement facile parce que tu t'es amélioré ailleurs. Puis là, ben, c'est un beau cercle. Je dis vicieux, mais c'est pas vicieux, c'est un beau cercle là, de réussite là, au feu. Plus t'avances, puis à un moment donné, tu te rends compte que t'as 30 heures, 40 heures de jeu, t'es haut niveau, puis t'as des belles armures, puis t'es comme « wow, j'ai fait ça tout seul ». Je trouve ça cool, mais j'ai pas battu le premier boss encore, mais là, tu vas battre le premier boss, puis finalement, tu y sacs 2-3 coups, puis il est mort. Fait que c'est comme... c'est payant, en fait. C'est ça qui est le fun, là. J'aime vraiment le fait, genre, de que ce soit payant. En rafale, soyez aux aguets, des petits arbustes dorés sur la map. Ces petits arbustes-là, dorés sur la map, ces arbres-là donnent une graine dorée, les golden seeds, qui servent à augmenter les sacred flasks, donc les flacons qui donnent de la vie. Soyez aux aguets parce que vous allez en avoir besoin. Plus vous avancez dans les boss, plus vous allez vouloir vous remplir de flacons pour avoir de la vie.
En plein combat, dans le fond, si tu perds la vie, tu peux
en reprendre, ouais.
En avoir un peu, ouais. Avec des potions puis des trucs comme
ça. Mais t'es limité au nombre que t'as débloqué. Donc au départ, tu commences à 4, puis plus le jeu avance, plus tu peux en débloquer, là. Quand même, là, tu sais.
Au moins ça.
C'est ça, au moins il y a du jeu, là, tu sais. Ensuite, encore une fois, explorer le maximum de territoire, comme on disait tantôt. Ouvrir le plus de Lost Grace, ça va vous permettre plus tard de revenir dans le jeu plus rapidement, puis d'avancer dans l'histoire plus vite. Vous allez vous rappeler que, j'ai vu cet item-là qui était pour l'histoire dans ce coin-là, puis je l'ai débloqué, donc t'auras pas à faire le gros chemin avec le cheval. Donc ça, c'est une autre chose. Ramassez tout ce que vous voyez. Donc, fleurs, crânes, runes, armes, tout. Tous les items qui sont ramassables, ramassez-les, ils vont vous servir à un moment ou à un autre. Puis je porte particulièrement mon attention sur les Earl Leaf Flower, donc qui servent à fabriquer un item pour convoquer des joueurs pour t'aider lors des combats avec les boss, et les Ghost Glovewort qui se trouvent près des cimetières ou des cercueils, que eux servent à rendre les esprits qui peuvent t'aider aussi en combat plus fort. Donc plus t'avances, plus tu peux monter de niveau les esprits. Ensuite, essayez le plus d'armes de style de combat, parce que oui, au départ vous allez choisir une classe, mais au final peut-être que cette classe-là vous convient pas, puis ben finalement vous préférez un style de combat peut-être un peu plus samouraï, ou peut-être un peu plus rogue, assassin, on sait pas. Mais toutes les armes que vous allez ramasser, essayez les sorts aussi. À un moment donné, vous allez trouver un combo qui va vous plaire, puis ben à ce moment-là, vous allez pouvoir augmenter vos statistiques en fonction de ces armes-là. Ces informations-là, vous pouvez les trouver en ligne. Il y a déjà énormément de guides qui ont été écrits par des vétérans de jeu et des gens qui ont joué au jeu avant. Ça va, pour vrai. Il y a aucune arme qui est plus meilleure que d'autres. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. C'est le cas pour les sorts aussi, pour les armures. Là.
Mais c'est une question de préférence aussi, tu sais. Comme moi, ben je reviens à l'exemple de Skyrim parce que c'est un peu, c'est ça, ça me rappelle ça un peu. Moi, je suis très épée à une main, tu sais, puis magie dans l'autre main. Puis ça, c'est propre à moi, tu sais. J'ai pas vu tant de gens jouer comme ça non plus. Mais tu sais, c'est le style que j'ai comme adopté un peu sans m'en rendre compte, que c'est comme le combo qui allait bien. Tu sais, dès que je changeais pour faire un combat à deux mains, à épée à deux mains, j'étais comme moins à l'aise, tu sais, la rapidité, là, c'est comme, c'est pas mon style, on dirait. Fait qu'on a toutes comme un peu notre propre stratégie, comme qui vient de notre propre instinct de gamer.
C'est ça. Puis c'est ça qui est le fun avec Elden, c'est justement l'ouverture des statistiques. Le fait qu'on peut vraiment choisir comment on veut bâtir notre personnage. Puis on peut, tu sais, si on n'est pas satisfait, ça change avec un item là, qu'on peut trouver dans le jeu, ça peut changer. Il n'y a pas d'erreur. C'est juste de laisser erreur, là.
Des préférences,
Il y a des préférences, vous allez trouver ce que vous aimez. Puis, ben, au final, ça va donner un style de jeu puis une expérience de jeu vraiment propre à vous, là, très très propre à la personne, parce que il y a personne qui a un style de jeu pareil, parce qu'il y a certains gens qui vont dire je vais préférer avoir plus de sorts, peut-être moins d'armes. Là, tu les vois arriver là dans ta game, puis t'es comme ok, toi t'es vraiment un sorcier, parce qu'il est loin, mais il te fait un genre de kamehameha dans le boss qui t'enlève genre la moitié de la vie, puis t'es comme wow, je vais être comme toi un jour, t'sais. Puis là, c'est ça qui fait que Tu vois un peu le style de combat des autres, puis tu t'inspires d'eux autres, puis tu veux savoir c'est quoi qu'il a fait, parce que je veux ça aussi. C'est comme ça que tu bâtis tes personnages, puis pour vrai, j'ai jamais vu un personnage pareil là, dans Elden Ring. Les deux derniers... Il y en a un que c'est assez glauque là, comme conseil, mais tu sais, faut se préparer là. La mort répétitive, ça fait partie du processus d'apprentissage. C'est frustrant, là. On le sait que c'est frustrant dans un jeu de mourir à répétition au même endroit. Mais dans un Soulsborne, dans Elden Ring, mourir à répétition fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de la progression du joueur. Puis on voit ça comme une forme, une excellente façon d'étudier l'opposant, comme je disais plus tôt. On apprend leur phase de combat, on apprend comment ils bougent, où est-ce qu'ils tombent, c'est quoi leurs différentes attaques. Puis ben au final, on s'en rend pas compte. Puis après peut-être 5 essais, ben on bat le boss parce qu'on a compris comment il fonctionnait. Des fois, ça peut prendre 5, 10, 15.
Faut accepter la mort.
Exactement. Accepter la mort comme faisant partie du jeu.
C'est beaucoup d'apprentissage, mais une fois que tu comprends un peu la mécanique de l'importance d'aller chercher tes runes une fois que tu meurs, ben, tu sais, ça vient un peu diminuer l'impact de la mort dans Elden Ring, puis au-delà de ça, tu finis par développer peut-être un peu des stratégies à la longue de dire, écoute, je suis sur le bord de changer de niveau, fait que je vais aller battre 2-3 ennemis faciles, je vais aller leveler, changer de niveau, ramener mes runes à zéro. Fait qu'après ça, je vais pouvoir essayer le boss ou l'ennemi ou le donjon sans cesse, puis c'est pas grave si je perds mes runes.
Exact.
Il y a plus d'enjeu, tu sais.
C'est ça. Puis c'est surtout aussi ce fait de se détacher genre de l'importance des runes aussi, parce que les runes, on peut toujours aller en chercher ailleurs. On peut toujours en avoir. Là, vous dites, mais le boss a mis 1000 runes. Là. Ouais, 1000, au final, c'est rien, parce que tu peux aller les chercher en une demi-heure ailleurs, ou en même pas, peut-être 10 minutes des fois ailleurs. Là. Fait que c'est l'importance de dire on se détache des runes. C'est vraiment juste une monnaie qui est très remplaçable, et que après ça sera plus grave de perdre 1000 runes. Ça va être du petit scrolling là, comme vous dites, ça va être du petit change là qui va rien valoir, encore une fois en guillemets, parce que ça vaut quand même, mais ça sera plus grave là. T'sais, c'est vraiment juste de détacher genre l'esprit, de dire ok, c'est pas grave si j'ai perdu mes runes, ce que je viens de faire, c'est j'ai appris quelque chose, j'ai appris comment le boss fonctionne, puis je vais pouvoir revenir avec une meilleure stratégie, t'sais. Ou avec des amis, parce que ça, c'est mon prochain point, hein? Vous trouvez des amis ou des joueurs avec qui faire de la coopération. Puis des joueurs pour faire de la coop, il y en a à la tonne, il y en a vraiment à la tonne dans le jeu, parce que les joueurs aiment ça. Quand on met un signe pour faire de la coopération par terre, à l'aide de notre doigt de coopération, parce qu'on nous donne ça au début du jeu, c'est un doigt, puis t'écris avec, nous, en tant que joueurs, on peut convoquer ces joueurs-là en ligne, donc des vrais joueurs qui jouent en même temps. Et on peut les convoquer dans notre partie pour battre, par exemple, un boss ou pour nous aider dans notre aventure.
Est-ce qu'on peut convoquer quelqu'un de random?
Oui, c'est random. C'est vraiment les gens qui sont par terre, c'est vraiment des gens random. Tu peux faire des parties privées, dans le fond, avec un mot de passe, puis là, ben, ton ami qui connaît ton mot de passe, il met le même mot de passe que toi, ben il va pouvoir venir dans ta partie puis t'aider. Ça aussi c'est faisable, là, tu peux créer des groupes vraiment fermés avec certains joueurs à l'aide d'un mot de passe, comme ça peut être très ouvert puis tu convoques n'importe qui.
Combien de personnes peuvent jouer ensemble?
Vous pouvez être trois dans le fond, dans les combats. Puis quand vous battez un boss important, ben ces personnes-là s'en vont. Là. Ils ont accompli leur mission, puis ils vont aider d'autres personnes. Donc, les gens qui sont dans le jeu, là, qui mettent ce signe-là par terre, ben c'est des volontaires. Ils sont là vraiment pour t'aider. C'est pas des gens qui sont toxiques. De toute manière, t'as pas de communication avec eux. C'est vraiment juste, sont vraiment là juste pour se battre. Mais c'est une excellente façon de passer le jeu sans se sentir seul, parce que oui, c'est un jeu très solitaire, mais avec la coopération, le Jolly Co-op, comme on l'appelle dans le jargon des Souls, ça passe mieux la difficulté là, des jeux. Puis tu le vois pas vraiment parce que tu le sais qu'il y a des gens qui t'aident. Puis c'est pas grave si tu meurs puis que tu dois convoquer d'autres gens. Il va toujours avoir quelqu'un là, pour t'aider. Puis, tu sais, des ressources comme ça, on peut en trouver sur les groupes Facebook, on peut en trouver sur des serveurs Discord, on peut en trouver sur des subreddits qui sont dédiés à Elden Ring. Il y a des sites aussi avec beaucoup de ressources. Il y en a un en particulier que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est Fextra Life, qui est fextralife.com, qui est un wiki qui est littéralement une mine d'or d'informations sur tout qui est ce qui est de Elden Ring et même les autres Souls. Mais bref, il y a de la ressource, puis il y a de l'aide partout. Puis c'est la communauté de Elden Ring est une belle communauté parce que justement c'est une communauté qui a été formée avec le caractère a été formé avec le jeu, qui a été formé à aider son prochain. Parce que dès que tu finis un boss, tu le sais que ça a été difficile. Ben tu te dis, ben tu sais quoi, je vais aider mon prochain, le débutant qui est rendu à ce boss-là, je vais lui donner un coup de main, puis on va le passer, puis ben lui, il va faire ça. Puis c'est attitude, c'est une belle, un beau cercle d'amitié là qui se forme sans le savoir. Mais ouais, donc tu sais. Avec tous ces conseils-là, là, j'espère pour vrai là, que vous allez pas abandonner le jeu. Puis c'est un beau jeu, c'est un beau jeu à donner une chance. Mais tu sais, si vous voyez là que finalement c'est peut-être pas le jeu, ben c'est pas le jeu pour vous. C'est correct aussi là. C'est correct là. Tu sais, Kasi l'a dit dans un super beau texte là, que je vous invite à aller lire sur pastorstar.com. C'est ok de pas être get good là. T'sais. Voyez l'échec là comme juste une autre affaire de la vie là, puis c'est pas grave là. Tu le dis en plus dans ton texte, tu dis vraiment une phrase qui m'a vraiment comme touchée là. Elle dit on a tous nos raisons de jouer à des jeux, même si celles-ci sont différentes, on mérite tous notre place. C'est beau, je trouvais ça super beau. Pas besoin d'être un maître des Souls pour être passionné du gaming. Puis c'est vrai. On n'a pas besoin genre d'être un Souls Master là, pour aimer le gaming. Mais si vous êtes à ça là, de vendre votre Elden Ring, ben essayez ces conseils-là. Puis sinon, ben c'est pas grave. Vendez-les puis allez vous acheter Kirby, vous allez avoir beaucoup de plaisir.
Raph, est-ce que ces conseils-là vont être utiles, là, tu penses, dans tes parties?
Ben oui, écoute, je suis pas sur le bord d'abandonner, mais ce sont tous de bons conseils et des conseils que j'applique déjà un peu, fait que je peux quand même cautionner pour Christine. Ce sont de bons conseils, puis sincèrement, c'est d'y aller à son rythme, hein, c'est vraiment ça, puis de mettre la découverte de l'avant. Si les combats sont pas pour vous, explorez. Vraiment, explorez, prenez votre temps. Puis, si vous voulez pas être frustré, ben évitez les situations frustrantes. C'est sûr, ça sonne plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible.
Puis, tu sais, je vous invite même, si vous voulez, là, jouer à deux à ce jeu-là. T'sais, si vous êtes moins combat, puis votre coloc ou votre conjoint-conjointe est plus combat, ben dites-lui, j'ai envie d'explorer, puis dès que j'arrive à un boss, je vais te passer la manette. Ben, jouez à deux. C'est des belles activités là, de journée de pluie là, à regarder Elden Ring.
Excellent. Merci beaucoup, Christine, pour tes précieux conseils d'Elden Ring. On va lire bientôt ça sur le site web aussi, d'ailleurs. Donc, si vous pouvez lire les conseils de Christine, c'est sur pastorstar.com. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à toi.
Merci.
Un beau podcast. Je pensais pas qu'on allait encore parler d'Elden Ring. Ça fait 3 épisodes qu'on en parle, mais que voulez-vous? C'est le sujet chaud en ce moment. Tout le monde en parle. Tout le monde est curieux de savoir les meilleurs conseils, mais aussi il y a des mods intéressants qui sortent de ça. Il y a plein d'actualités fascinantes qui sortent. Mon Dieu, excusez, il y a une voiture qui a passé vraiment fort.
Ouais, on a entendu celle-là.
Excusez, ça me déconcentrait un peu. On est content de voir une belle communauté autour d'un jeu comme ça. C'est toujours le fun de voir une communauté être vraiment tissée, serrée, mais aussi comme prête à convertir le plus de gens possible parce qu'il y a comme une passion tu sais, comme attendre la main, je trouve, dans des contextes comme ça. Puis c'est la première fois qu'un jeu Souls, je trouve, qui me tend la main un peu, tu sais. C'est la première fois que j'ai cette impression-là. Je trouve qu'Elden Ring a vraiment comme évoqué un peu ce sentiment-là chez beaucoup de joueurs. Donc, ils ont réussi à avoir Raph.
Ça en dit gros, ça, ouais.
Ben oui, si vous voulez.
on a hâte d'en savoir plus aussi sur ton récit avec Elden Ring, Raph. Si vous voulez lire nos articles, allez sur pairsurstunt.com. Pour écouter le podcast, ben c'est sur toutes les plateformes de podcast. On vous invite aussi à nous suivre partout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. C'est tout pairsurstunt, donc c'est très facile à trouver. Et mon nom est Kasi, et on se revoit la semaine prochaine avec un autre podcast. Bye!
Bye!
Ciao!